Et au sommaire de ce journal, un hangar agricole qui part en fumée à Olmeto et beaucoup de questions sur les raisons de cet incendie criminel. Nous irons à Calvi pour voir que les paillotes sont démontées ou détruites les unes après les autres, mais que cela ne pose pas plus de problèmes que cela apparemment. Les exploitants auraient eu des garanties. Nous verrons aussi comment Scandola va conjuguer protection de l'environnement et maintien de l'activité touristique. L'autorité de la concurrence en Corse en décembre pour comprendre le mécanisme de formation des prix, le carburant et la grande distribution notamment. Et puis il y a la santé, les finances publiques qui sont en grève aujourd'hui, de la culture, les 32e musicales de Bastia, c'est pour bientôt. Et puis comme tous les jours, comme tous les midis, le sport.
Ce journal vous est présenté par Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, et on débute avec ce hangar agricole détruit par un incendie. C'était hier soir à Olmeto. Les dégâts sont très importants. Près de 600 balles de foin présentes à l'intérieur ont brûlé, pas de victimes. La piste criminelle est envisagée. Le hangar agricole situé sur la commune de Vigianello appartient aux parents de Marie-Paul Tomasi. Marie-Paul Tomasi qui est une personnalité bien connue dans la région, Thibaut Kilikini.
Oui, Didier, Marie-Paul Tomasi est tout d'abord porte-parole du collectif Ovalinco Lindo, collectif qui bloque actuellement le site d'enfouissement de Vigianello et qui est également opposé au projet Vigianello 2, projet qui vient d'être autorisé par la préfète de région. Marie-Paul Tomasi est également membre de Fema Agorsiga et du collectif Amafiano. Alors, nous l'avons dit, la piste criminelle est privilégiée. Peut-on pour autant voir un lien entre l'engagement de Marie-Paul Tomasi et cet acte? Rien ne permet pour l'heure de l'affirmer. De nombreux soutiens se sont en tout cas manifestés sur les réseaux sociaux. Jean-Félix Accoyu, député de la seconde circonscription de Haute-Corse et secrétaire national de FEM, parle de tentative de pression. Léo Battesti, porte-parole et porte-drapeau du collectif Mafiano, lui n'hésite pas à parler de pression mafieuse. Ce qui est sûr en tout cas, Didier, c'est que cet incendie s'inscrit dans un contexte très tendu dans le monde agricole. Dernier exemple en date, samedi dernier, avec l'incendie criminel d'une bergerie à Porto-Vic.
Merci Thibault. Et puis, autre réaction après cet incendie. La Ligue des droits de l'homme redit son inquiétude face à la répétition de ces actes de violence. À nouveau sont invitées des personnes engagées dans la vie publique. Ces intimidations de militants de la société civile, associatifs ou syndicalistes sont autant d'agressions contre la démocratie. Paul-André Colombani, député de la seconde circonscription de Corse du Sud, souligne l'implication de Marie-Paul Tomasi dans Valinconlin où les controverses de ces derniers mois interrogent sur la concomitance de cet acte criminel. Ces méthodes doivent cesser, dit-il. Le syndicat Mossapa et Zana condamne également cet incendie criminel. Le collectif Valinconlin, dont fait partie Marie-Paul Tomasi, poursuit le blocage du centre d'enfouissement. Blocage qui ne serait pas prêt d'être levé après l'annonce hier par la préfète de Corse de l'autorisation donnée pour le projet de Vigianello 2. Une unité de tri et une partie dédiée à l'enfouissement. 58 000 tonnes par an pendant 10 ans. Selon la préfète, c'est la seule manière d'éviter une crise des déchets en 2020, date de la fermeture de Vigianello 1. En Balagne, un terrain d'entente a été trouvé entre l'État et les paillotiers de Calvi, alors que les établissements du bord de mer ont commencé à être démolis. Une réunion entre le préfet, les élus, les professionnels s'est tenue hier à Calvi et a débouché sur un compromis pour la saison prochaine. Ceux-ci ont autorisation de reconstruire en démontable, dans le cas d'une autorisation d'occupation temporaire, le temps de travailler sur les conditions d'une concession pour 2021. Si quelques détails, notamment sur l'aspect du démontable, démonté ou non, restent à éclaircir, les paillotiers sont plutôt satisfaits des avancées, comme l'explique le président du syndicat des plages de Calvi, Gilbert Vietto, au micro de Pierre Pascolini.
On a travaillé depuis le début en partenariat avec le sous-préfet et maintenant avec le préfet. Ils sont attentifs aux problèmes que nous avons et pour l'instant, on est sur la bonne voie.
La solution d'une saison de transition en 2020 dans l'attente de concession en 2021 vous convient ?
Oui, si elle est assortie peut-être d'un non-démontage, on est en train d'en parler, on est en train d'en discuter. Je pense qu'effectivement, ça peut être une solution, oui. De façon à nous permettre, nous, plagistes, d'arriver à trouver d'une part les financements et les assurances pour arriver à ouvrir nos établissements. On va reconstruire en 2019 pour la saison 2020, et là, on ne démolira pas pour la saison 2021. De façon à nous permettre de bien nous mettre en place financièrement parlant.
Une journée d'action, une journée de grève pour les personnels des finances aujourd'hui au niveau régional, au centre de leurs préoccupations. Le NRP, le nouveau réseau de proximité. C'est un projet national qui devait épargner la Corse, mais qui, selon les syndicats, n'est pas abandonné, simplement retardé. Un plan de restructuration qui, à coup de suppression d'emplois, viendrait donner un coup fatal au service des impôts, à de nombreuses trésoreries et à la qualité de l'accueil du public. Grève générale donc ce jeudi, rassemblement ce matin devant les centres des finances à Ajaccio et de Bastia, à l'appel de tous les syndicats. Pour Pascal Bertrand, qui est responsable de la CGT de Corse du Sud, la situation devient tout simplement intenable.
Que veut Macron, en passant par ce fameux plan de géographie revisité qu'ils appellent maintenant nouveau réseau de proximité, mais bon, qui est la même chose, c'est-à-dire la suppression des trésoreries dans le rural et la suppression aussi de tous les fameux doublons de CIP ou de SIE qui peuvent exister, c'est-à-dire pour les impôts pour les particuliers et pour les entreprises. Maintenant, bon, là, on a réussi à bloquer le projet grâce à notre implication, mais aussi à celle des élus.
Sur la Corse.
Bien sûr, sur la Corse, voilà. Oui, parce qu'ailleurs, il faut savoir que c'est mis en place, bien sûr, sauf à Paris, dans les DOM et sur la Corse. Grâce à nos mouvements et à l'aide de nos élus, y compris de la préfète, hein. Mais on a peur que ce ne soit qu'un blocage et que ça revienne, bien entendu, sur le tapis, qu'on ne peut pas dire que ce soit acté.
Et notez qu'à Bastia, les grévistes ont bloqué les trois entrées de la direction des finances au bas de la place Saint-Nicolas et qu'une délégation a été reçue par le directeur de cabinet du préfet, préfecture, qui leur a confirmé que la carte NRP concernant la Corse n'avait pas encore été rendue publique. À Paris, une manifestation nationale est prévue cet après-midi, 14h, contre le démantèlement du service public des finances. Sujet signé Jean Prounette.
RCFM, toute l'info.
Protéger en priorité, je le disais, la nature, tout en préservant l'activité humaine, c'est l'objet des réunions de travail qui, depuis l'été dernier, regroupent institutions, élus, professionnels concernés autour de la gestion du site UNESCO de la réserve de Scandola, du golfe de Girolate et des calanques de Piane. Des mesures avaient été prises en juillet, rester à au moins 250 mètres des zones où nichent les balbuzards, ne pas dépasser en mer une vitesse de 5 nœuds, interdiction aussi de navigation pour les bateaux de plus de 24 mètres, des mesures largement évoquées hier à Porto à l'occasion d'une réunion où Jean Prounette, un certain consensus semble s'être fait jour.
Protéger balbuzards, herbiers de Posidonie ou populations de poissons est d'un intérêt vital. Pour l'environnement, bien sûr, mais aussi pour l'activité économique, comme le reconnaît Eric Villain, représentant des pêcheurs calvais.
Lorsqu'il y a une réserve, eh bien, il y a l'effet réserve, donc tout le poisson qui est à l'intérieur de cette réserve, eh bien, il y a un débordement qui se fait et ça permet aux pêcheurs de pouvoir, quelquefois, avoir une production un peu plus importante que dans d'autres endroits où il y a pas toujours des réserves à proximité.
Côté tourisme, les bateliers se sont aussi adaptés aux mesures préconisées l'été dernier, mais pas tous. Dominique Pierre, de l'association des bateliers de Scandola, est pour et souhaite que tous s'y mettent.
On a regretté que cette mise en œuvre n'ait pas été effective au niveau des plaisanciers et en dehors de notre corporation, puisque nous ne représentons que nos adhérents et toutes les compagnies ne font pas partie de notre association des bateliers. Et donc, tout le monde ne suit pas obligatoirement les prérogatives que nous mettons en place.
Un vœu qui pourrait être entendu car ces préconisations devraient plus tard avoir force de loi, si l'on en croit José Philippe, directeur du parc régional.
On n'a pas, au niveau réglementaire, la possibilité de sanctionner. Donc tout ce qu'on fait là, ce sont des expérimentations qui, à un moment donné, feront l'objet de décisions réglementaires, des arrêtés pris par le préfet maritime, qui permettront de sanctionner si les gens ne les respectent pas.
À l'aune du résultat de nouvelles études scientifiques, une prochaine réunion est programmée pour janvier prochain.
L'économie maintenant, on parle de notre argent. Elle avait été saisie par le ministre de l'économie et des finances pour rendre un avis sur la concertation, la concentration économique en Corse, dans les secteurs de la distribution des carburants, de la grande distribution, des déchets, des transports maritimes aussi. L'autorité de la concurrence, je vous le disais, sera en Corse en décembre. Durant cette visite de quelques jours, de nombreux acteurs locaux seront auditionnés pour faire un point sur le fonctionnement de la concurrence en Corse, Pierre Lussardi.
La concurrence est-elle respectée en Corse ? Pour enfin répondre officiellement à cette question, l'autorité de la concurrence va auditionner des élus, des chefs d'entreprise, des établissements publics, des associations ou des syndicats. Fabienne Sire-Desgarnier est la vice-présidente de l'autorité de la concurrence.
On y va pour comprendre et puis après pour proposer. Ça se passe toujours en deux temps. On a essayé de ratisser le plus large possible de manière à ce que ce soit le plus représentatif possible. On a choisi, pour être efficace, de traiter ce qui apparaissait comme ça, prima Fakier, le plus urgent et ce qui nécessitait une réponse précise.
Et parmi ceux qui seront auditionnés, le collectif contre la cherté du carburant en Corse, emmené par Frédéric Poletti.
Au niveau du collectif, nous attendons beaucoup de choses de la venue de l'autorité de la concurrence, tout simplement parce qu'elle a les moyens d'exiger des informations, de demander des comptes que les autres n'ont pas, que nous n'avions pas, et elle pourra voir de manière plus claire les différents maillons où finalement les marges augmentent dans la distribution. Le groupe Ruby fait le la de la distribution en Corse et effectivement dans cette situation-là, nous considérons qu'il n'y a plus d'expression de la libre concurrence.
L'avis de l'autorité de la concurrence sera rendu dans le courant du premier semestre 2020. Il sera transmis au gouvernement qui pourra sanctionner si la libre concurrence n'est pas respectée en raison d'ententes caractérisées.
La santé maintenant avec une journée d'action dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les cliniques et en fait dans tous les établissements d'action sociale. La santé et l'action sociale ont besoin de financements supplémentaires. La sécurité sociale ne souffre pas d'un excès de dépenses mais bien d'un déficit de ressources. C'est la CGT Santé qui le dit. Antoine Paolini, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui vous dites que la santé va mal, que les personnels sont usés. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'on va vers une médecine à deux vitesses ?
Ben, écoutez, c'est le quotidien, c'est notre vécu à l'hôpital, hein, où on voit à un moment donné donc des politiques restrictives se mettre en place et qui conduisent année après année à des difficultés supplémentaires à remplir nos missions, à savoir soigner le patient. Et donc les personnels sont épuisés parce que rappelés systématiquement pendant leur congé, pendant leur RTT, et pendant leur temps de repos, pour pouvoir pallier notamment au manque d'effectifs.
Alors en Corse, Ajaccio va avoir un nouvel hôpital, Bastia se bat pour la rénovation du sien, le centre Corse, le sud, la Balagne fonctionnent avec des mix privé-public.
Oui.
Est-ce que c'est ça peut-être l'avenir ?
Ben, écoutez, en tout cas, j'ai bien l'impression que c'est la direction qu'on veut donner à la santé, sauf qu'à un moment donné, voilà, donc on s'aperçoit que dans les missions, je dirais, de santé publique, il n'y a que l'hôpital réellement qui est engagé. Voilà, donc à un moment donné, on est bien d'accord pour partager le gâteau, à condition de récupérer le lucratif et de laisser tout ce qui ne l'est pas à l'hôpital public. Et de cette façon, on continue et on augmente les déficits, on crée des déficits, et c'est toujours au détriment du patient.
Vous dites partager le gâteau. Aujourd'hui, la santé, c'est vraiment un business, même dans votre bouche ?
Ben, écoutez, ça l'est devenu. C'est bien ce qu'on déplore. Hein, c'est bien ce que nous déplorons. Mais malheureusement, il y a qu'à regarder, notamment, tout ce qui se crée par rapport à la personne âgée, etc. Donc, on s'aperçoit que les centres privés fleurissent et les publics, eux, par contre, je dirais, se battent pour pouvoir travailler, pour pouvoir soigner les gens. Voilà, c'est tout. Donc, à un moment donné, je veux dire, il y a une réalité qui est écue et donc il suffit de rentrer dans une chambre d'hôpital pour s'en rendre compte.
Alors, depuis le mois de juin, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé déjà deux plans. Pas un, mais deux, en faveur des urgences, en réponse au mouvement de grève démarré en mars et qui touche maintenant plus de 260 services. À Matignon comme à l'Élysée, on reconnaît que ces mesures n'ont pas suffi à calmer la colère des personnels soignants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui calmerait cette colère ? Est-ce que c'est une augmentation ? Est-ce que l'argent peut tout résoudre ?
Mais écoutez, de toute façon, aujourd'hui, il est bien clair que l'hôpital public crève par rapport à son endettement. En France, 30 milliards d'euros constituent la dette des hôpitaux publics. Donc, à Ajaccio, 150 millions d'euros de déficit cumulé et 40 millions exclusivement pour l'année 2019. Donc, on voit bien, à un moment donné, que si l'hôpital va mal, c'est tout simplement à un moment donné parce qu'il n'arrive plus à faire face à ses missions. Il n'arrive plus à faire face à ses missions parce que les déficits sont énormes et on n'arrive plus à avoir les produits de première nécessité. Lorsque, par exemple, cette année, notamment sur la loi des finances de la sécurité sociale, le gouvernement prévoit donc une augmentation de 2,1%, alors qu'on sait que de façon chronique, les dépenses de santé augmentent grosso modo de 4,2% dans l'année. On s'aperçoit bien qu'on crée du déficit. On s'aperçoit bien que le budget 2020 créera encore plus de déficit que le budget 2019. C'est mathématique. Donc, à partir de là, si on veut annoncer des plans qui permettent notamment aujourd'hui de relever la tête et d'avoir une santé, je dirais, digne d'un pays comme la France au XXIe siècle, eh ben il faut tout simplement s'orienter vers des mesures qui sont beaucoup plus drastiques, qui permettent notamment de régler aujourd'hui les problèmes posés aux hôpitaux. Il n'y a qu'à voir. Et la journée d'action d'aujourd'hui regroupe non seulement l'ensemble des organisations syndicales, mais aussi tout un tas de comités qui se sont constitués, etc. En effet, les urgences, la radio, les blocs opératoires, demain les laborantins, etc., etc. Pour arriver. Donc, on voit bien que le marasme il est complet et qui touche l'ensemble de la communauté hospitalière et les médecins compris, évidemment.
Merci Antoine Paoligne, responsable de la CGT Santé en Corse du Sud. Allez, la culture maintenant, avec un petit événement dans la vie culturelle bastiaise et au-delà. Les musicales ont lieu cette année du 20 au 24 novembre. Pour en parler, je vais dire Monsieur Musical de Bastia, Raoul Locatelli, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être venu jusque dans nos locaux. 32e édition, comment on garde la flamme? Comment on garde la passion?
Je crois que la passion, c'est ce qui, en tout cas, moi, m'anime. Et je pense que je la fais partager à tous ceux qui m'entourent au quotidien. Mais c'est vrai que souvent, on a eu des péripéties plus malheureuses, mais on a eu également de beaux succès. Je crois que ce qui anime la flamme, c'est surtout les rencontres que nous faisons avec les artistes. Et la joie du public quand il quitte le théâtre et qui vient d'un petit mot nous dire à combien il a été heureux d'assister à un concert.
Alors, l'affiche, les concerts, cette année, ce sont Steve Hill, Gainsbourg Confidentiel, Rosso, Luz Casal, Noah, Patricia Paul, Idoria Housset. Le budget, en gros, c'est 115 000 euros.
Un peu plus. Oui.
Alors, comment on boucle une programmation avec un budget qui n'est pas extensible? On peut parler du budget réduit quand on connaît les demandes des artistes. 120 000, 130 000 euros, c'est pas grand-chose.
Ce n'est pas grand-chose. C'est un festival qui vaudrait beaucoup plus s'il y avait des salariés, s'il y avait des postes de responsabilité assumés par des professionnels. Pour ma part, par exemple, j'ai assumé ça pendant 32 ans, en rôle de directeur artistique sans toucher un copec. Donc peut-être j'ai eu tort d'ailleurs, hein, parce que dans la mesure où on habitue les gens ensuite, les partenaires financiers, à se dire mais ils ont pas besoin d'argent quoi. Donc je pense pas que ça puisse perdurer, puisque moi je suis pas éternel et que je vais certainement bientôt passer le relais, et que les personnes qui vont me remplacer, ça sera aussi leur gagne-pain. Donc effectivement, il y aura des discussions âpres et amicales avec nos partenaires pour leur montrer que cette prouesse que nous avons réalisée... On ne peut plus la maintenir. On a eu jusqu'à 2 salariés, puis ça s'est avéré, à un moment donné, impossible parce que les musicales avaient des difficultés. Je crois que depuis 2016, les musicales sont en train de retrouver, leurs ambitions, de redorer leur blason. Je crois que chaque année, depuis 2016, le public est au rendez-vous, on parle des musicales alors qu'on les avait parfois un petit peu oubliées.
On les avait aussi enterrées à une époque.
Absolument. Et là, je crois qu'on est à la croisée des chemins, puisqu'on va se trouver en face de comment continuer à grandir.
Comment on grandit justement? Qu'est-ce qu'on fait? On devient plus riche?
Oui.
On devient payant? Là où les concerts étaient gratuits?
Non, alors sur les concerts gratuits, les animations, ça c'est quelque chose qu'on ne changera pas.
C'est votre ADN?
Oui, je crois, parce qu'on n'est pas on ne sont pas que des programmateurs d'artistes et de stars ou de découvertes, nous sommes aussi tous animés par cette idée que les plus démunis ont droit à également à assister à des concerts. Il y a des gens qui n'ont jamais franchi la porte d'un théâtre ou d'une salle de concert. Parce que c'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, elle est matérielle. Elle est de vivre et parfois de survivre. Et si nous pouvons apporter ce petit supplément d'âme, même si c'est pas grand chose, nous pensons que c'est notre rôle et nous le continuerons. Nous sommes une association d'éducation populaire citoyenne. Donc ça, c'est notre travail. Non, ce qui va devoir grandir, c'est qu'on accorde au musical les mêmes subventions qu'aux autres manifestations de la même envergure, aux mêmes ambitions, afin que, vraiment, à des postes clés, il y ait un personnel salarié.
C'est difficile de négocier aujourd'hui avec une collectivité, avec les institutions, avec, entre guillemets, les grandes entreprises qui pourraient faire du mécénat. Elles sont trop sollicitées ou alors elles se disent peut-être ça fait 32 ans qu'ils tournent sans nous, on n'a pas besoin de les aider.
Et il y a ça aussi, mais pour répondre à votre question, oui, c'est difficile. C'est difficile, mais en même temps, on est écouté. Mais après, ça ne se traduit pas toujours par une concrétisation de nos idées, de nos projets. Je crois que souvent, les collectivités, elles sont aussi prisonnières de leur budget. Mais souvent, elles peuvent s'inscrire dans une politique purement comptable. C'est vrai, par exemple, que d'être à Bastia, où il y a beaucoup de choses qui sont aidées, ça serait peut-être, c'est plus difficile qu'ailleurs, par exemple. C'est plus difficile qu'ailleurs. Et à long terme, moi, je souhaite que les musicales peut-être se déplacent dans l'année parce que le dernier trimestre est complètement embouteillé. Il y a des festivals chaque mois et le public.
Ne pensez pas à l'été. Je vous donne un conseil, ne pensez pas à l'été.
Non, surtout pas. Non, surtout pas. Non, pensez éventuellement au printemps avant que tous les festivals d'été se produisent. On pense que c'est pas mal. Est-ce que c'est réalisable? Ça, je n'en sais rien aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un souhait de notre part.
Votre coup de cœur pour ces 32e musicales. Allez, sans vexer les autres artistes, mais s'il y a un petit moment de grâce auquel on pourra assister, ce sera lequel?
Moi, je dirais, j'en donnerai deux, si vous permettez.
Bon, vous, de suite, vous négociez.
J'ai négocié. Alors, du point de vue des concerts, Steve Hill.
Ouais.
Du point de vue d'un spectacle portrait, Gainsbourg Confidentiel. Mais tous les artistes qui sont programmés, je les fais avec beaucoup de cœur et d'amour et ils me le rendent bien.
Merci Raoul Locatelli.
Merci à vous.
Les musicales du 20 au 24 novembre, c'est à Bastia et un petit peu ailleurs aussi. On parle maintenant d'un sujet beaucoup moins drôle, beaucoup moins sympathique, beaucoup moins agréable, la violence. C'est un sujet malheureusement récurrent, plus encore ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces dernières heures même. Un invité pour en parler, c'est Dominique Bouquigny, ancien président de l'Assemblée de Corse entre 2010 et 2015, également ancien président de la commission violence de l'Assemblée à cette époque. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il sera sollicité par l'actuelle mandature dans le cadre du débat sur la violence et les dérives mafieuses. Dominique Bouquigny, interrogé par Maxime Beckmer.
RCFM, l'invité de la rédaction.
Dominique Bouquigny, le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamone, il souhaite vous auditionner afin d'établir d'ici mars 2020 un diagnostic sur les dérives mafieuses. Vous répondrez favorablement à l'invitation du président de l'Assemblée de Corse?
Écoutez, sur le plan du principe, oui, à moins que je ne sois malade, ce qui est toujours possible, mais autrement, oui. L'important, c'est de délimiter par le président actuel de l'Assemblée le périmètre de l'intervention ou de mon intervention.
Et que pourriez-vous apporter au débat?
Je pourrais, moi, apporter au débat la chose suivante, c'est ce que nous avons fait ensemble, avec les votes qui ont été mis à l'unanimité par l'Assemblée, lorsque je présidais la commission de la violence, où il y a eu donc un certain nombre de thèmes qui ont été abordés. Il y avait la pénétration de l'économie par l'argent sale, la précarité, le chef scolaire, le sursaut collectif qu'il était indispensable d'avoir parce qu'on vivait des moments difficiles, avec notamment l'identité au cœur du projet, les rencontres avec les lycéens dans l'ensemble des lycées de Corse.
Mais Dominique Bouquigny, cette commission violence à l'époque, est-ce qu'elle a vraiment servi à quelque chose? Est-ce qu'elle a fait reculer la voyoucratie?
Ah ça, je ne sais pas si elle a fait reculer la voyoucratie, mais elle a sensibilisé des gens, et en particulier des jeunes, puisque nous avons fait le tour des lycées, et que nous avions défini ce qu'étaient dans un premier temps les violences ordinaires, et puis après nous avons essayé de travailler sur des actions à mettre dans certains domaines, en faisant appel à des gens, et avec beaucoup de réunion avec la réception de gens du monde économique. Voilà, on a essayé de travailler en toute honnêteté.
Alors, que peut-on espérer aujourd'hui en 2019, en l'occurrence en 2020, quand aura lieu cette séance publique portant sur la violence et sur les dérives mafieuses? Que peut-on réellement espérer de la collectivité de Corse? Est-elle efficace, même si elle n'a pas de pouvoir régalien?
Ah, moi, je suis mal placé pour dire quoi que ce soit, mais il faut définir le périmètre. pour essayer de voir un peu et se retourner vers l'État. Moi, je propose, par exemple, avec mes amis, la création d'une commission qui viendrait, je veux dire, hein, d'un rapport qui viendrait de la part des parlementaires. Il y en avait eu un avec Glavany en son temps, qui était intéressant et digne d'intérêt. Recommencer maintenant, à partir du moment où tout cela ne s'est pas arrêté, mais au contraire, il y a moyen de travailler d'une manière sérieuse. On verra après pour ce qui est des résultats. En espérant, il le faut, parce que c'est nécessaire.
Dominique Bouquin, quel est, vous, votre regard sur les deux collectifs contre la mafia qui se sont créés suite à l'assassinat de Massimo Susini?
Et plus il y a de gens qui sont dans le mouvement pour dénoncer la mafia, le gangstérisme, l'affairisme, mieux cela vaut.
Et c'est un moyen de s'attaquer là à la voyoucratie, parler?
Ah oui, peut-être que s'il n'y avait pas le type de relation qu'il y a en Corse, c'est un moyen d'insister beaucoup. Je me souviens, moi, des réunions dans des lycées de Corse où il y avait des jeunes qui avaient envie de dire un certain nombre de choses et qui le disaient. Donc il faut faire confiance à la jeunesse d'aujourd'hui en Corse pour essayer de quoi faire, de la sensibiliser à nouveau pour avancer sur des problèmes qui sont des problèmes graves.
Dominique Bouquigny, au sein de ces collectifs, justement, on a entendu certaines personnes dire ouvertement que votre commission violence à l'époque n'avait rien fait contre la spéculation immobilière.
Eh bien, la spéculation immobilière, c'est que la commission a estimé que c'était le PADU qui réglait le problème. Et le PADU qui avait été bien analysé, bien travaillé par Madame Giudicelli, et il y avait une majorité importante de l'Assemblée de Corse qui avait voté. Voilà, donc une fois que c'est ça, que c'était dans le PADU, qu'on n'allait pas recommencer à parler de ce problème-là. J'ai entendu au forum un monsieur au demeurant très sympathique qui disait ça. Moi, honnêtement, s'il veut venir un jour à Sartène, je l'accueille bien volontiers. Je vais lui montrer sur le littoral de la commune, lorsque j'étais maire, comment on arrête la spéculation, comment on tente d'arrêter la spéculation immobilière. Après, c'est au niveau des maires et des PLU que ces choses-là se passent.
Et puis autre chose qu'on a entendu il y a quelques jours dans l'un de ces collectifs, c'est la mise en cause de l'honnêteté de certains élus, des élus à qui l'on reproche une trop grande proximité avec des figures présumées du grand banditisme. La porosité, finalement, ça signifie tous pourris?
Non, mais ça, il faut faire attention, parce que je veux dire, on peut se payer de mots. Ça, si on le dit, il faut le prouver. Deuxièmement, ce n'est pas vrai que tous les élus soient prouvés. Deuxièmement, ce n'est pas vrai que tous les entrepreneurs sont des gens malhonnêtes. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est archi faux. Ce n'est pas vrai. Je suis en désaccord complet avec ça.
Mais il y a un lien étroit qui a toujours existé entre élus et voyous?
Mais ça a pu exister. Ça a existé, bien sûr. Il s'agit de quoi faire. Il y a des élections municipales bientôt, de permettre au peuple corse de voter pour des gens qui sont des gens honnêtes, intègres et qui ont envie de faire quelque chose d'une manière très sérieuse pour la Corse et pour son peuple.
Merci Dominique Bouquin d'avoir répondu à nos questions ce matin.
Au revoir.
CFM, toute l'info.
Et l'info, c'est la Méditerranée. Marella Dino, consacrée à la Corse et à Marseille. C'est le thème d'un livre présenté par Pierre-Louis Alessandri.
RCFM. Méditerranée.
Les relations entre la Corse et Marseille sont séculaires, mais l'histoire de cette relation est à écrire et Pierre Bianco, directeur de recherche au CNRS, en donne dans son livre « Regards croisés sur la Corse et Marseille » des aspects intéressants. Une relation corso-marseillaise qui remonte au XVIe siècle, favorisée par Sampiero Corso et son choix de la France pour combattre les Génois. Les premiers corso-marseillais ont été les Cap-Corsins et les Calvets, et la cité phocéenne est ainsi devenue la place privilégiée, l'interlocuteur entre les deux entités géographiques et entre la Corse et la France. Les échanges, principalement économiques et humains, vont s'amplifier au XIXe siècle, favorisés par la navigation à vapeur et l'extension de l'industrie, avec donc une croissance extensive de l'émigration corse vers Marseille. Pierre Bianco jette un regard sur ces 5 siècles de relations et d'échanges qui ont vu leur apogée au XIXe et XXe siècle, où des milliers de Corses vont débarquer dans la cité et investir certains quartiers dont le plus emblématique a été le Panier. Les Corses venaient ici vendre leur force de travail, mais ils vont innerver en plus d'un siècle le monde social, politique et économique de la ville. Les Corses ont-ils construit alors une corsitude marseillaise? Ont-ils pénétré la culture plurielle de cette ville? Ou bien sont-ils restés dans un état d'insularité concrétisé par les associations? Les réponses restent à apporter, mais à n'en pas douter, les Corses de Marseille ont participé à construire la méditerranéité dans tous ses aspects de Marseille. Pierre Bianco.
On y retrouve des communautés de tout le pourtour méditerranéen présentes dans notre ville, hein, qui ont apporté chacune leur originalité, leur spécificité, que ce soit dans tous les domaines, aussi bien de l'art, de la cuisine. Il y a cette connaissance et cette couleur différente qui va de l'Espagne jusqu'à l'Orient. Le pourtour méditerranéen est bien présent, à mon avis, à Marseille. Marseille a cette opportunité d'abriter dans ses murs des communautés diverses qui devraient, je le souhaite, cohabiter, coexister et apportant chacune leur spécificité. Les Corses se sont intégrés très bien dans la communauté, même que d'ailleurs les Italiens ou d'autres communautés pourtour méditerranéennes. Ils n'ont pas été accueillis au départ avec beaucoup de confraternité, si je puis dire. Je pense que c'est un exemple, un modèle d'intégration.
Regard croisé sur la Corse et Marseille de Pierre Bianco, édité chez Piazzolla.
Et c'est une chronique sport en forme d'hommage que nous vous proposons aujourd'hui. L'hommage d'Alfred Sauli, figure du cyclisme insulaire, au mythique Raymond Poulidor, décédé à l'âge de 83 ans. Raymond Poulidor et la Corse, où j'en prenais à l'histoire de deux amitiés.
RCFM, le sport.
Raymond disait toujours Alfred, c'est mon frère.
Des liens entre Alfred Sauli et Raymond Poulidor, devenus fraternels au fil des ans, des courses disputées par ce champion dans notre île et des événements locaux auxquels ce dernier a participé auprès d'Alfred Sauli.
En 1973, je présidais aux destinées du Vélo Club Porto-Bétier. Poulidor a été le parrain du Vélo Club. Il était encore au sommet de la gloire. Et quand j'ai fondé avec des amis le comité Corse de cyclisme en 1984, mon vœu, c'était de réaliser des stages de formation. Raymond Poulidor est venu à Bastia et nous avons fait le premier stage de formation.
Une amitié qui naquit en 64 sur les pentes du col de Tédim, au-dessus de Bastia. La Corse servait alors d'étape à la course Paris-Nice et notre île eut aussi la chance de vivre cette opposition de légende avec Jacques Anquetil. En Corse, où Poulidor se sentit pousser des ailes en gagnant l'étape de Portiuecchio avant d'attaquer Tédim.
Tédim où Raymond a accompli, selon ses dires, le plus grand exploit de sa carrière. Jacques Anquetil, les Rudy Altig et j'en passe, étaient loin derrière dans la montée de Tédim. Malheureusement, la portière d'une voiture de presse